Hello la team, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon week-end de Pâques. Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas retrouvés en tête à tête. Il y a quelques semaines, j'ai sorti un épisode en compagnie de Lisa où on vous raconte trois anecdotes chacune, choisies par l'autre. Et j'avais utilisé mon joker concernant une anecdote au Pérou parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire et que je voulais consacrer un épisode complet sur le sujet. J'avais aussi reçu des messages de certains d'entre vous qui étaient très intrigués par cette anecdote. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est tout simplement Hublot au couloir. D'ailleurs, allez, je vous laisse le temps de le faire. Jingle. Bienvenue dans votre podcast Hublot au couloir. Je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Comme d'habitude, petite remise en contexte, je suis en tour du monde, donc en 2015, en compagnie de Lisa, et à ce moment-là du trip, il y a aussi mon ex Aaron qui nous a rejoint. On vient de terminer la Bolivie, franchement, on est dans un état de fatigue, on est épuisé. Quand on arrive au Pérou, ça fait déjà 3 mois qu'on voyage, on est vraiment fatigué, les Boliviens nous ont pris toute notre énergie, toute notre batterie sociale, donc on arrive dans un état pas ouf. D'ailleurs, c'est un des regrets, c'est que, bien évidemment, on va visiter le Machu Picchu, mais on va pas faire grand-chose d'autre, à part le Machu Picchu. Donc je n'ai pas vu grand-chose de ce pays, malheureusement. D'ailleurs, petit aparté, vous savez, pour ceux qui voyagent sur le long terme comme ça, vous allez souvent entendre « Ah, mais ça va, t'es en vacances depuis 6 mois !» Non. Non, non, ce n'est pas des vacances. De marcher des kilomètres et des kilomètres avec un sac à dos de plusieurs dizaines de kilos sur le dos, de devoir batailler chaque jour dans une langue étrangère que tu ne connais pas, de ne pas savoir où tu vas dormir le soir, de devoir chercher un logement, de possiblement dormir dans un bus, dans un aéroport, d'aller travailler dans des hôtels, dans des auberges, etc. Non, ce n'est pas des vacances. Tu vas vivre une expérience extraordinaire, tu vas t'en rappeler toute ta vie, mais ce n'est pas des vacances. On arrive donc à Cusco, et Cusco, c'est la porte d'entrée pour le Machu Picchu. Le Machu Picchu, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous le savez tous un peu, mais on va faire un peu de culture quand même sur ce podcast. C'est une cité inca qui culmine à plus de 2400 mètres d'altitude, et c'est d'ailleurs une des 7 merveilles du monde. Fondée au XVe siècle, elle est située dans l'est de la cordillère des Andes, à la frontière de la forêt amazonienne. Elle servait de résidence à l'empereur inca, la cité étant difficile d'accès. Au XVIe siècle, avec le déclin de l'empire inca, elle est abandonnée, puis ne sera connue que de la population locale jusqu'en 1911, où un archéologue américain la fera connaître dans un ouvrage de référence utilisé dans l'université de Yale. Ça lui vaudra alors le nom de cité oubliée. Donc notre objectif pour ce séjour au Pérou, c'est d'aller voir cette merveille. Mais comme on a tous un peu un côté explorateur, il est hors de question d'emprunter le petit bus touristique qui t'emmène jusqu'en haut. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression, quand je vais voir ce genre de choses, qu'il faut que je le mérite. Tu vois, genre, si je prends le bus, c'est facile, je le fais comme tout le monde. Là, si je fais une rando de plusieurs jours au milieu de la jungle, de la montagne, il y a vraiment un côté explorateur, il y a vraiment, ok, j'y suis arrivée, j'ai le droit de la voir. Je l'aurais vraiment vue, plus que les touristes qui sont venus en bus. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais en tout cas, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc, on se dirige vers Cusco pour passer quelques jours et trouver une excursion qui nous convienne. Alors, concernant Cusco, je pense que c'est la ville dans toute l'Amérique du Sud où je me suis sentie le moins en sécurité. Il y avait, je ne sais pas comment expliquer, il y avait du trafic de tout type, ça se voyait. Il y avait beaucoup de vacarme la nuit. Il y avait des histoires d'agressions de backpackers, bref. Si vous y êtes rendu, j'aimerais bien avoir votre ressenti. En tout cas, moi de mon côté, je ne sais pas si j'étais fatiguée ou quoi, mais vraiment, je ne me sentais pas vraiment bien dans cette ville. Et d'ailleurs, on ne sortait jamais après que la nuit soit tombée. Quand on arrive dans cette ville, on recroise Javier. C'est un pote du Chili qu'on a rencontré à Taltal, la famille de Taltal. Javier, il bossait là, il faisait un peu le même trip que nous. On l'avait déjà revu en Bolivie et là, on le recroise au Pérou. Et il était en LPX dans un hôtel. Et du coup, on a dormi dans son hôtel, donc très sympa de le revoir. Et on a passé 2 nuits là-bas, le temps de trouver notre excursion. Faut savoir que le trip jusqu'au Machu Picchu, depuis Cusco, tu peux plus ou moins le faire par toi-même. Je crois que c'est pas très légal. Mais on a rencontré des backpackers qui y allaient par eux-mêmes, donc ils n'ont pas payé un guide. Tu peux dormir à peu près dans les mêmes hôtels qu'avec ton guide. Mais moi, je trouvais ça assez dangereux. Enfin, tu vois, tu connais pas la route et tout. Donc on a préféré quand même prendre un guide. On a choisi une excursion de 4 jours. Au programme, descente en vélo dans la montagne péruvienne, du rafting, beaucoup, beaucoup de rando, bien évidemment, et baignade dans les sources d'eau chaude. Et bien évidemment, le Graal, le Machu Picchu au lever du soleil. Ça, c'est sur le papier. On va vivre plein d'autres moments extraordinaires pendant ces 4 jours. Franchement, je me rappelle plus du tout du prix. On a pris l'excursion sur place en négociant pour 3 personnes. Là, j'ai regardé sur internet, les prix, c'est 500 € par personne. Je pense qu'on n'a pas dû dépenser plus de 200 balles par personne. Je pense qu'on n'aurait pas accepté de dépenser plus de 200 balles. Donc ça devait être dans ces eaux-là. Très tôt le matin, on décolle. On est une dizaine dans un van et on a chargé les vélos. Et on rencontre notre guide, Julio. Ah là là, alors, Julio, ça va être toute une histoire. Gardez bien en tête son prénom, on va en reparler. Je l'ai adoré comme je l'ai détesté. C'est parti, on prépare les VTT, on s'équipe et tout, et on est censé descendre lacet d'une montagne. Alors, comment dire, on a refait du vélo il n'y a pas longtemps à ce moment-là au Chili, mais de là à descendre les lacets d'une montagne, bon, on n'est pas hyper sereine avec Lisa. Et bon, on commence, et d'un coup, pluie torrentielle. Donc, avec Lisa et une bonne partie du groupe, on déclare forfait et on va finir le trajet dans le van. L'après-midi, c'est parti pour la rando. Sous la pluie, toujours. Notre guide Julio, il est super intéressant. Franchement, il nous raconte plein d'histoires de sa famille, plein d'histoires sacrées du pays, de la région, des légendes. Bref, vous commencez à me connaître tout ce que j'aime. On s'arrête même à un moment donné chez une dame qui vit littéralement au milieu de la jungle pour goûter des spécialités. Tous les touristes passent par chez elle, donc un truc aussi touristique où elle vend du chocolat, etc. Où elle a un petit endroit avec des hamacs où tu peux te poser dans la jungle. Elle a aussi un singe apprivoisé qui vient sur nous, un tout petit singe qui vient sur nous. Hyper mignon. Et on fait une halte dégustation. Elle nous fait goûter son chocolat, qui est à vendre également. Et elle va aussi nous faire goûter de l'alcool de serpent. Enfin, de l'alcool à base de serpent. Vous voyez ce genre de bouteille où tu as un cobra dans le rhum ou la vodka, je ne sais pas. Et donc chacun notre tour, on va prendre la bouteille et on va boire au goulot pour goûter cet alcool. On va aussi visiter une fabrique de café, hyper intéressant. C'est souvent dans les pays qu'on vous fait découvrir des fabriques de café, celle-là était super intéressante. Et on termine la journée tranquillement dans notre auberge, ils nous font un petit repas, c'est très sympa. Bref, on commence à faire connaissance avec le groupe, il y a une bonne ambiance, une bonne synergie, on s'entend bien avec Julio, vraiment c'est cool. La deuxième journée, elle va être extraordinaire. On commence le matin par du rafting, de très bonne heure. Et c'est ouf de faire du rafting dans une vallée aussi sacrée, au milieu de la cordillère des Andes, avec des décors de ouf. Incroyables les sensations. Franchement, j'ai pas fait du rafting souvent, j'en ai fait quelques fois. Mais là, les paysages sont à couper le souffle. Et souvent, quand je vis des moments comme ça, je visualise la map monde, tu sais. Et je me dis, waouh, t'es là, au Pérou, au milieu de l'Amazonie, en train de faire du rafting. Ça n'a aucun sens. Après cette matinée rafting, c'est rando de nouveau, parce qu'il faut bien monter quand même pour arriver au Machu Picchu. Et je vous ai pas dit, mais j'ai pris un tout petit sac, parce que j'allais pas me taper une rando avec un sac de 23 kilos. Donc j'ai vraiment un sac de 3 kilos, avec 2-3 sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, un t-shirt de rechange et ma brosse à dents. Tout le reste, il est resté à l'agence. Et on marche, des kilomètres et des kilomètres. Les panoramas sont incroyables. J'ai pas les mots pour les décrire. J'essaierai de faire un Reels avec ce que j'ai comme photo ou vidéo. Mais c'est magique, l'énergie elle est folle et Julio, il est incroyable ce jour-là. Il prend de l'avance à chaque fois, genre il court sur le chemin, on le voit toujours au loin parce qu'on voit très bien le chemin par lequel on doit passer. Et il nous attend en bas avec la flûte de Pan et il nous fait des chansons péruviennes pendant qu'on descend cette vallée avec les paysages, vraiment, c'est magique, c'est un moment hors du temps. Quelques minutes après, on arrive à une cascade. Et en fait, Julio, il nous dit rien, il se dessape et il va se baigner. Alors, on est en haut de la cascade. Donc, il y a beaucoup de courant et il y a aussi la cascade qui tombe ensuite sur plusieurs mètres. Donc, c'est pas très safe quand même comme endroit, mais une bonne partie de l'équipe décide de se baigner aussi. On fait une petite halte, ça rafraîchit, il fait tellement chaud, ça nous fait du bien. Et on repart. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, on a pris carrément du retard sur le planning de la journée. On traverse un pont suspendu, gigantesque, qui vraiment n'est pas très stable. Et la nuit commence à tomber, et ça, c'était pas du tout prévu. Donc, on sort les lampes torches, et c'est parti pour une randonnée nocturne. Mais je pense que Julio, il est pas très content de finir sa journée aussi tard. Parce qu'il trace, vraiment. Il va hyper vite. Sauf que là, on n'est plus sur des chemins, on est sur des rochers, qu'il fait nuit, et que nous, on connaît pas la route, alors que lui, il l'a fait toutes les semaines. C'est un peu chaotique. Et on arrive au moment où on se rend compte qu'on doit aller de l'autre côté de la vallée. C'est prévu, c'est sur le chemin, et pour ça, il y a une espèce de tyrolienne péruvienne faite par les locaux avec les moyens du bord, vraiment super précaire. En gros, c'est une espèce de nacelle qui est suspendue au câble. Tu peux monter à deux maximum dedans, et en gros, t'as Rulio qui te pousse en haut, et un de ses collègues qui te réceptionne en bas. Et il y a quelques centaines de mètres entre les deux. Donc je résume, il fait nuit, on est dans la montagne Inca, je m'apprête à monter dans une nacelle en bois, à plusieurs centaines de mètres du sol, tenue par un câble, fabriqué par des locaux, et cette nacelle va être poussée par Rulio et réceptionnée par un autre collègue, à lui, plus bas dans la vallée. Bon, ben, y a pas le choix, et on y va. On arrive alors à la récompense du jour, les sources chaudes. Et là, mais quel bonheur d'être dans un espèce de jacuzzi naturel, après avoir marché des kilomètres et des kilomètres dans la montagne. Vraiment, ça régale. En plus, tout le groupe s'entend super bien. Vraiment, on est tous devenus potes en très peu de temps. On passe un super moment. Et Julio nous propose de rejoindre l'hôtel en taxi parce que là, on a quand même beaucoup marché dans la journée, qu'il est tard et que du coup, on a quand même la flemme. Donc, on se retrouve à l'hôtel. Il nous donne les chambres et il nous dit de nous retrouver au restaurant une demi-heure plus tard. Nous sommes donc dans un village pas très loin du Machu Picchu. Un peu perdu, je vous laisse imaginer, mais village quand même. Il y a quand même des infrastructures, il y a des hôtels, voilà. Il y a un petit côté touristique et ce soir-là, c'est l'anniversaire de mon ex. Du coup, Julio décide de payer sa tournée de shooter. Bon, on s'enjaille un peu, on n'oublie pas quand même qu'on est en altitude, on prend un deuxième verre, et puis vraiment la synergie du groupe fait qu'on s'entend tous vachement bien et ça nous fait du bien de boire un coup ensemble. Tu vois, ça fait 2 jours qu'on marche beaucoup, qu'on fait beaucoup de sport et on se détend. Et Julio, lui, il n'a pas du tout envie de rentrer après le restaurant. Et il nous dit que dans cette petite ville perdue au milieu de nulle part, il y a une boîte de nuit. Et mais comment ça, une boîte de nuit? Genre ici, à quelques kilomètres du Machu Picchu. Il y a une boîte de nuit. Bon, ok. La moitié du groupe et Julio, on décide d'aller en boîte. Ouais. Bon, au départ, un peu pour voir, tu vois, à quoi ça ressemble, la boîte de nuit ici. Évidemment, on n'a absolument rien à se mettre. Hein. On se rappelle que j'ai donc mon petit sac. Et on se rappelle que 6 mois plus tôt, j'habitais à New York. Et donc, je sortais toujours hyper bien apprêtée. Et je me retrouve donc là, en boîte de nuit, en leggings et en chaussures de rando. Mais peu importe, on va s'éclater. Et franchement, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. Je finis sur le bar avec Lisa, enfin le bar, hein, une espèce de meuble en bois, complètement alcoolisée, à danser sur des chansons improbables, mais vraiment, c'était une dinguerie cette soirée. Sauf que c'est cool, hein, mais on se couche vers 4h du matin, et demain on doit se lever à 7h pour faire 10 heures de marche. Ça c'est beaucoup moins drôle, hein. Le lendemain, Julio, qui a fait la fête avec nous, d'ailleurs je pense qu'il a même fait la fermeture, donc il s'est couché bien après nous, et dans un état, en fait dans le même état que nous, hein. Mais il fait déjà super chaud à 7h du matin et je transpire de la vodka, c'est une horreur, la journée va être hyper longue. La veille, Julio, il nous avait proposé de faire la partie de ce matin en taxi, en nous disant que c'était pas très intéressant, que c'était beaucoup de routes allongées, etc. Et on avait refusé parce qu'on voulait pas tricher. On avait vraiment envie de faire toute la rando à pied. Donc le lendemain matin, il nous repose la question et on lui dit la même chose. Et en fait, une partie du groupe avait choisi de faire une activité en plus que nous, on n'avait pas choisi. C'était l'acrobranche. Donc une partie est déjà partie à l'acrobranche. Et Julio nous dit, j'ai 2-3 trucs à faire dans le village. Commencez le chemin à pied et moi, je vous rejoins là dans quelques minutes. Vous avez juste à suivre la route. Ok, donc on est parti pour notre 3e jour de rando. Il fait extrêmement chaud, je me souviens. Je me souviens que je transpirais de l'alcool, je n'en pouvais plus. On est effectivement sur de la route, il n'y a pas d'ombre. Et vraiment, là, tu maudis ta décision de la veille. Celle où t'as dit, allez, yalla, on n'a qu'une vie. Non, t'as qu'une vie, mais t'as 10 heures de rando, meuf. C'est pas possible, tu peux pas te coucher à 4 heures du matin complètement bourré. Heureusement, on marche que sur du plat. Je pense que j'aurais pas du tout assumé la marche en montagne. Et après 3 heures, ça fait donc 3 heures, hein, on n'a toujours pas vu Rulio. Voilà, et je t'avoue que là, ça commence à me gonfler et que je me demande si on est sur le bon chemin et que je suis quasiment sûre qu'il est parti en taxi. Et ça m'agace parce que, un, je suis fatiguée et deux, j'ai payé un guide pour être guidée et là, je sais pas trop où je suis. On est tous dans le mal, avec la chaleur et tout, on pourrait être à deux doigts de faire un malaise et on est tout seul. Donc, je suis un peu saoulée à ce moment-là. Et Rulio va prendre cher, c'est le cas de le dire. J'arrive au point de rassemblement, donc où il y a la moitié de l'équipe qui était partie faire de la crevanche, et qui vois-je? Rulio. Et là, vraiment, je pète un plomb. Je pète un plomb et je lui dis, là, mon espagnol, soudainement, j'ai un espagnol excellent. Et je lui explique que je n'ai pas payé un guide pour ne pas être guidée, en fait. Voilà, donc, et je lui dis un peu énervée. Pour tout vous dire, Rulio ne me parlera plus de l'après-midi. C'est dommage parce qu'on avait quand même passé une très bonne soirée la veille. Mais bon, on fait la pause déjeuner et on repart pour la marche. Ça va, c'est plat, on longe la voie ferrée, c'est trop beau. On commence à voir la vue sur notre merveille du monde. C'est quand même très joli, mais on est dans une galère. On est toujours dans le mal, vraiment. On marche jusqu'à la ville qui s'appelle Agua Caliente, située tout au pied du Machu Picchu. Et là, il y a nos corps qui commencent un peu à nous lâcher après 3 jours de marche. Je me rappelle que le genou d'Aaron le lâche à un moment donné. Il n'arrive plus à les bloquer. Et évidemment, Rulio étant énervé, il ne nous attend pas du tout. Bref, c'est une journée qui est assez difficile. Alors que la marche en soi, c'était la journée la plus facile pour la marche. C'est notre faute. On n'aurait pas dû ingurgiter autant d'alcool. Et en plus, en altitude, je pense que ça n'a pas aidé. Bref, c'est très dur. On arrive finalement à Agua Caliente. Tout le groupe est un peu séparé dans différents hôtels. Et on décide tous d'aller se coucher extrêmement tôt, puisqu'on se lève demain à 4 heures pour pouvoir voir le lever du soleil au sommet du Machu Picchu. Le lendemain, on est les premiers à arriver au point de rassemblement. On n'a absolument aucune envie de louper le lever du soleil. Et on a encore de la marche. On a encore 1900 marches à monter, avec 550 mètres de dénivelé pour atteindre les 2500 mètres d'altitude de notre merveille du monde. Et franchement, malgré nos 3 mois de voyage, nos entraînements quotidiens de marche, nos séjours au Chili, en Bolivie, on a eu quand même pas mal d'altitude. C'est loin d'être un exercice facile. On est épuisé après les 4 jours de marche. Je me souviens vraiment galérer hein, pour monter ces marches. Mais on arrive finalement au sommet. Et c'est là. Là que t'es vraiment content après ces 4 jours de marche. T'as vraiment l'impression quand t'arrives que t'es Christophe Colomb en train de découvrir l'Amérique. Tu vois, mon rêve de découvrir une merveille comme ça. C'est incroyable. Et là, on l'a mérité. On est fiers, on est là, on a vraiment mérité le Machu Picchu. On a le droit d'être là. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais vraiment, genre pour moi, ça a vraiment du sens. Genre, j'ai besoin de le mériter. C'est un endroit qui est tellement perdu au milieu de nulle part. J'ai pas envie de faire partie de cette masse touristique. J'ai envie de faire partie des gens qui l'ont cherché, qui ont galéré et qui l'ont eu. On va passer quelques heures dans cette cité Inca à imaginer leur vie. Il y a des siècles, à voir ce visage dans la roche, à vagabonder dans les ruines, à écouter l'histoire, à voir leurs habitations, à faire de jolies photos évidemment. Malheureusement, on ne peut pas trop s'attarder, car on a une longue marche qui nous attend. On doit retourner au point de ralliement de l'Acrobranche de la veille, je sais pas si vous vous rappelez, où un van nous attend pour nous ramener à Cusco, et on ne peut pas le louper, sinon on reste bloqué là. J'ai pas revu Rulio, je crois que son travail s'arrêtait à Agua Caliente. Après le Machu Picchu, c'était à mon tour d'être malade. Dieu merci, heureusement que je n'ai pas été malade pendant le trip parce que je ne sais pas du tout comment j'aurais fait, ça aurait été un calvaire. En tout cas, comme d'habitude, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas la finalité, c'est pas le Machu Picchu, bien sûr, c'était incroyable. Bien sûr que je suis contente d'avoir vu cette cité et que c'était fou. Mais comme pour l'Argentine, ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont j'ai voyagé. C'est vraiment ça qui était important. Bien évidemment, le Machu Picchu, c'était extraordinaire. C'était incroyable et j'aurais voulu rester bien plus longtemps pour encore plus m'imprégner des lieux. Mais ces 4 jours, avec ces gens inconnus, ces liens qui se sont tissés, ces souvenirs qui resteront vraiment gravés pour très longtemps, c'est ça qui compte. Je serais curieuse de savoir si vous, vous êtes aussi allé au Machu Picchu. Quelle a été votre expérience? Est-ce que vous avez pris un trek? Vraiment, j'aimerais bien avoir vos retours, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que je vous ai fait voyager un peu au Pérou. En attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team!